on jase. Bonjour madame, bonjour monsieur, chers auditeurs d'Unique FM 94.5. Êtes-vous en relâche? Êtes-vous en train de marcher? Espérez un jour peut-être faire Compostelle. Aujourd'hui, à Unique FM, à On Jase, on pose la question Compostelle, coupe ou donne des ailes? Ici Julie Blecomo et je reçois l'auteur Louise Tremblay, qui est l'auteur de miniatures géants et de bugs célestes. Vous pouvez aller voir sa binette, aller voir la couverture de ses œuvres, de ses ouvrages, www.louise-tremblay, évidemment, T-R-E-M-B-L-A-Y.com, et on la reçoit en studio aujourd'hui. Son parcours est intéressant, fascinant. Elle est comptable de formation. Oui, 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 vous avez bien entendu. Comptable de formation. Elle est devenue auteur et elle a aussi œuvré comme gestionnaire financier au sein de différentes industries. Puis, ben oui, il y a eu cette fameuse balade, cette fameuse marche, on pourrait dire presque nuptiale, en communion avec elle-même. Et elle a décidé, elle a fait des choix et elle va vous raconter sa petite histoire qui a mené à la rédaction. Alors, il y a eu en 2015 un ouvrage, Pour toi, Jacques. Ensuite, on avance un peu dans le temps. Il y a Miniature, il y a Bug Céleste et il y a après Géant. Pardon, Géant. Miniature et Bug Céleste. Est-ce que c'est bien ça, Louise?
Géant, Bug Céleste et miniature.
En fait, il y en a trois, puis oui. Ça a débuté par un premier. Pour toi, Jacques, en ce moment, il travaille dans l'auto-édition. Donc, si vous êtes en ce moment un auteur en herbe qui a une petite graine, qui voudrait s'épanouir, bourgeonner avec le printemps pour faire de la rédaction, ben peut-être que vous pourriez bénéficier des services de Louise. Puis encore là, vous pouvez aller voir son site web ou sa page Facebook. Bonjour Louise Tremblay, bienvenue à On Jase.
Bonjour Julie, merci de m'accueillir.
Puis je dois dire à nos auditeurs qu'en studio avec nous, on a aussi René Lemieux qui est, Louise, vous pouvez peut-être nous le présenter.
Ben René, c'est mon compagnon de toujours. C'est mon compagnon de voyage, mon mari, et la personne qui m'a vu revenir de Compostelle une première fois et qui en a peut-être eu un petit peu peur.
Bonjour René.
Bonjour.
Là, vous êtes assis dans la chaise d'à côté, puis c'est un peu comme si vous étiez le narrateur, puis Louise, elle est le personnage principal. Elle va raconter son histoire, puis des fois, on a dit qu'on pouvait vous donner la permission de dire, ben, de ma perspective, de mon côté à moi, voici ce que moi j'ai vu, ce que j'ai senti. C'est bien ça?
C'est bien ça.
Puis vous êtes ensemble, ça fait combien de temps?
Ça
là?
Fait plus de 20 ans.
Oh là là, puis mon Dieu, vous devriez les voir, là, ça a l'air toute jeune, de la jeunesse, ça nous fait, ça nous énergise en cette veille de printemps. Puis tout de suite, on rentre dans le sujet et on aimerait savoir, Louise Tremblay, qu'est-ce que c'est que le chemin de Compostelle? Parce qu'on a une idée de ce que ça pourrait être, mais il y a une définition, ou du moins, il y a des choses à savoir.
Oui, en fait, on parle du chemin, mais il y a de multiples chemins. L'histoire derrière ça, c'est que le premier martyr chrétien, Saint-Jacques le Majeur, qui a été décapité à Jérusalem, a été ramené à Cap-Finistère par ses disciples. Ils l'ont probablement échappé en chemin parce que sa dépouille a été retrouvée à peu près 1000 ans plus tard, là où est actuellement érigée la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle, qui est à peu près à 100 km de Cap-Finistère.
Puis on est où, là, géographiquement parlant? On a comme une idée qu'on est dans la France, près de l'Espagne.
On est Saint-Jacques de Compostelle est en fait au nord-ouest de l'Espagne, vraiment collé sur les Alpes. Et les chemins, bon, alors à l'époque où la dépouille a été retrouvée, la rumeur s'est répandue dans toute la chrétienté et les chrétiens, les catholiques, en fait, ont afflué de partout en Europe. Donc, il n'y a pas un chemin de Compostelle. Il y en a 1000 ou 2000 ou je ne sais pas. Il y en a qui passent partout. Celui que nous, on connaît le plus, c'est le Camino Francés qui part de Saint-Jean-Pied-de-Port.
Camino Francés, chemin français, qu'on pourrait traduire librement,
oui,
là?
Oui. Qui part du sud de la France et qui mesure à peu près 800 km. Donc, les gens le font en 5 à 6 semaines. C'est ce qu'on appelle, c'est le chemin le plus connu.
Donc, vous l'avez fait, ce chemin de 800 kilomètres?
Non. Moi, j'ai fait un segment qui est juste un peu avant. Mon premier segment de 300 kilomètres était de Conques à Lectoure, qui est encore dans le sud de la France. J'étais partie avec une cousine. C'était une des premières fois que je voyageais sans mon...
Sans René,
sans mon mari, sans mon compagnon de tous les jours. Et quand je suis arrivée là, parce qu'avec René, on a fait beaucoup de randonnées, pour moi, je m'en allais prendre une marche. Et là, il y a des gens qui m'ont dit « Non, c'est pas ça le chemin, là. Le chemin, c'est la route des petits miracles. »
Parce que, avant de nous parler là, de cette route des petits miracles, quand on s'inscrit pour aller faire Compostelle, comme on le dit communément, est-ce qu'on vous envoie une lettre « Bienvenue à Compostelle » puis est-ce qu'on vous prépare mentalement? Est-ce qu'on vous dit à quoi vous attendre? Ou c'est quelque chose qu'une excursion, une balade, une marche, comme vous l'avez dit, avec une autre personne, puis vous vous organisez tout seul? Comment ça se passe? Semble mythique, là. Il semble y avoir là, presque un passage à Compostelle avant d'y arriver?
Je pense qu'on va à Compostelle parce qu'on est appelé. Il y a des gens qui disent que le Camino a sa propre volonté et qu'il appelle les gens qui veulent bien venir à lui ou qui veulent bien éviter. Dans la réalité, on peut réserver, on peut partir puis faire aucune réservation, se promener d'une auberge à l'autre et de faire ses propres réservations la veille ou sur le chemin.
Ah oui, est-ce que c'est ce que vous avez fait?
Non, moi, ce que j'ai fait, c'est partir de manière un petit peu plus structurée. J'ai fait transporter mes bagages. Donc, j'avais un programme prédéfini. Chaque jour, j'avais une distance de entre 25 et 32 kilomètres à marcher. Et les bagages m'attendaient à l'arrivée à chaque jour. Et puis, c'est la même chose que j'ai fait quand je suis partie avec René.
Puis, avec, dans le premier voyage, vous étiez avec...
J'étais avec une cousine.
Puis, les deux, vous avez fait ça, là.
Oui.
Puis, aviez-vous chacune, vous dit, ben moi, là, pendant le voyage, là, j'espère que...
Non.
Il va y avoir tel miracle, j'espère que je vais avoir telle réponse. Aviez-vous une complicité dans vos attentes de miracle?
Non, elle avait déjà fait un bout du chemin, donc elle avait des attentes. Moi, je m'en allais prendre une marche, j'avais aucune attente et on ne marchait pas au même rythme. Donc, on se perdait de vue pour la journée et on se retrouvait le soir à l'hôtel. Moi, j'aimerais raconter un petit miracle qui s'est produit. Je travaillais sur Bug Céleste à ce moment-là et ça raconte l'histoire de... Je me demande en fait pourquoi il y a des êtres qui s'incarnent avec tellement de connaissances que ça en est troublant, comme un Léonard de Vinci. Et je traîne ce texte-là dans mon sac à dos, puis quand je prends des pauses, je corrige mon texte et il est lourd à porter. Et un soir...
Il n'y a pas de tablette numérique là, dans le temps,
non,
là,
ben,
c'est
je
papier.
Travaille, ben, c'est pas que c'est parce que j'aime bien travailler papier quand je suis en mode correction. Et un soir, j'arrive à une auberge et sur la porte de notre chambre, il y a une pensée qui dit qui est portée par une étoile ne regarde jamais en arrière. À ce moment-là, c'est quelque chose qui me rentre dedans et cette pensée est signée Léonard de Vinci.
Ah!
Et moi, là, je suis vraiment impressionnée parce que je me dis, hey, il a écrit ça pour moi il y a 500 ans. C'est la journée où c'était, si vous écrire ça, c'était pour moi.
Ça vous a touché,
ouais,
a résonné à l'intérieur.
Ouais.
Puis vous avez fait quoi avec ce miracle-là?
Bien, je l'ai accepté, mais sur le coup, j'étais vraiment surexcitée. Ma cousine ne filait pas très, très bien. Je suis allée dehors. Je suis allée voir s'il y avait des gens, de personnes qui restaient à l'hôtel pour voir s'ils ne voulaient pas venir prendre une bière avec moi parce que là, j'avais tellement envie de leur raconter ce que je venais de vivre. Puis eux m'ont dit, mais prends-le comme un petit miracle du chemin. C'est ça, les petits miracles du chemin.
Oui. Parce que pas tout le monde vit Compostelle de la même façon.
Non.
René, vous avez accompagné Louise quelques années plus tard. Alors, il y a combien de temps entre le voyage de Louise puis celui de Louise et René?
Il y a 2 ans.
Je pense qu'il y a 2 ans, oui.
Puis, quand vous êtes allé, quand vous avez fait cette première marche, donc Louise avait déjà une expérience, pour vous, c'était la première fois?
Oui.
Alors, est-ce que vous avez vécu aussi des petits miracles comme ça?
Moi, on a fait beaucoup de treks, fait que pour moi, c'était un trek par-dessus les autres, là. La seule chose, c'est que j'ai aimé de Compostelle, sur la route de Compostelle, c'est la rencontre, les gens qu'on rencontre sur ce chemin-là. Pourquoi ils sont là? Et souvent, les gens qui sont là sont à un tournant de leur vie. Il y a des gens qui partent pour 6 mois, il y a des gens qui viennent de prendre leur retraite, ils vont faire le chemin au complet. C'est comme une retraite à l'intérieur de soi. Et la route le marché permet ça aussi. Le paysage se déroule lentement, les paysages sont magnifiques, et tout se déroule lentement, et le hamster, lui, se promène dans ta tête, mais à un moment donné, les paysages sont tellement beaux que la pensée prend un arrêt à un moment donné.
Mm-hmm.
On prend un peu de recul par rapport à nos vies. C'est toujours ça le trek, moi, que j'ai trouvé.
Disons qu'on est là, sur le Camino, on est à Compostelle, qu'est-ce qu'on voit? Ça sent quoi, là, si on marche avec vous deux, là? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le paysage dont vous parlez?
Bien, c'est très montagneux. Plus on se rapproche des chaînes de montagne, c'est très beau, c'est très vert.
C'est fleuri.
C'est très fleuri. Il y a beaucoup d'odeurs florales. Il y a des bouts du chemin aussi qui passent par la Via Appia, qui était la voie romaine. On rencontre, évidemment, les paysages sont... On a beaucoup de vieilles constructions dans cette partie où nous, on est allés en France. Des belles églises, d'imposants monuments à la gloire de Dieu.
Oui. Puis les rencontres dont vous parlez, René, ces rencontres-là, est-ce que c'est dirigé? Est-ce qu'on se rencontre le matin, on se présente le soir, comme Louise, j'entends là, qu'il y avait une joie de ce miracle-là, cette citation de Léonard de Vinci. Puis là, vous vouliez partager ça. Est-ce qu'il y a des moments dirigés, encadrés, ou si on y va beaucoup plus par intuition pour se mailler, se tricoter son réseau pendant le chemin de Compostelle?
Ce qui se produit, c'est que tout le monde ne dort pas là, au même endroit et tout le monde ne marche pas au même rythme. Quelquefois, on a rencontré des amis qu'on a peut-être été deux jours sans revoir. À un moment donné, on les recroise sur le chemin ou à l'arrivée, ou on est par hasard dans la même auberge un soir donné et on reprend contact. Fait qu'il y a des gens qu'on a revus et il y a des gens avec lesquels on a eu le contact une seule fois, mais des contacts intéressants parce que les gens aiment se raconter, aiment dire pourquoi ils sont là.
C'est ça, on part pas tous en même temps, on n'arrive pas tous en même temps, donc c'est pas un voyage organisé.
Non. Et puis il y a une micro-culture qui se crée, c'est ça qu'on appelle le radio Compostelle, où les gens se croisent et se racontent, et ils racontent le pourquoi ils se sont retrouvés sur le chemin de Compostelle.
Puis... René nous parle des personnes qu'il a rencontrées, puis j'ai entendu de votre part tous les deux que quand vous êtes partis pour une balade, pour une trek, dans votre deuxième voyage, Louise, est-ce que cette fois-là, vous aviez une mission à aller faire cette marche-là?
Non, mais je voulais que René vive un peu le chemin pour qu'il comprenne. Et moi, j'avais plus d'attente. Moi, j'avais, entre-temps, dans ces deux années-là, j'avais réglé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec moi-même. J'avais vécu une grosse transformation. Donc, j'y allais sans attente et je savais que j'aurais pas un gros choc au retour comme la première fois.
Puis c'est ça qu'on veut savoir. Quelle a été la transformation après le retour? Vous êtes à l'écoute d'Unique FM, On Jase, Compostelle, Donne ou Coupe des ailes. Ici Julie Blecomo avec Louise Tremblay. Le site web est louise-tremblay.com. Vous pouvez vous joindre à la conversation au 613-745-9450. À tout de suite.